Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Vous renouvellerez la face de la terre. Prions Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous allons continuer dans ce traité de la religion qui était certainement un des plus beaux traités de la Somme. Nous en sommes maintenant à la question 88 de la Seconda Seconde, deuxième partie de la deuxième partie, sur le vœu. Alors, Satyava va justement nous parler de l'importance des vœux. Et il faut tout de suite détruire une idée fausse qui est dans la tête de beaucoup de gens qui sont un peu influencés par l'esprit du monde et qui pensent que se lier par un vœu, par exemple les vœux de pauvreté, chasteté, obéissance pour les moines, pour les religieux, détruit la liberté humaine. On entend ça tout le temps. Quand on se met sous un vœu, on est esclave, disent les gens du monde. En fait, c'est complètement l'inverse. Qu'est-ce que c'est qu'un esclave? Un esclave, c'est quelqu'un qui n'est plus maître de ses passions. Quand quelqu'un est un esclave sur plan spirituel, sur plan psychologique, il suit un maître contre sa volonté propre. Donc, quelqu'un qui est esclave de ses passions, prenez l'exemple par exemple de quelqu'un qui a un vice de boisson, qui boit comme un trou à longueur de journée, eh bien, il est esclave de la boisson. Il fait tout ce que lui demande la boisson, il va faire du n'importe quoi, parce que justement, il ne sait pas se maîtriser dans ce domaine de la sobriété par rapport au vin et à l'alcool. Donc, il devient esclave. Bon. Imaginez quelqu'un qui se lie à cause justement de sa tentation de boire trop, qui se lie par un vœu de ne pas boire, et qui grâce à ce vœu, en comprenant l'importance du vœu qu'il a fait, arrête de boire, il retrouve sa liberté. Donc le monde va vous dire, vous êtes sous un vœu, donc vous n'êtes pas libre, vous êtes esclave, alors qu'en fait c'est exactement l'inverse. Et c'est pareil pour tout. N'oublions pas que Satan mène le monde par les trois concupiscences. Concupiscence des yeux, concupiscence de la chair et concupiscence de l'orgueil. Et donc, ces trois concupiscences vont évidemment travailler sur notre âme, sur les puissances de notre âme, et à cause des conséquences du péché originel, même pour la personne baptisée, j'ai déjà expliqué ça souvent, donc je repasse rapidement là-dessus. Donc, à cause des conséquences du péché originel, même si chez celui qui est baptisé, nous avons les blessures du péché originel qui sont là. Notre intelligence va être blessée par exemple par l'ignorance, la volonté par la malice, le concupiscible par la concupiscence et l'irascible par la faiblesse. Et donc nous avons tous ces blessures, sauf la très sainte Vierge Marie, notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'ont pas le péché originel évidemment. Et donc à cause de ces blessures, il y a une porte d'entrée dans notre âme, une fissure dans la muraille de protection autour de notre âme, et le démon peut, parce qu'il est intelligent, il est plus intelligent que vous et moi, n'oublions pas qu'il est un ange, même si c'est un mauvais ange, c'est un ange, donc il comprend les choses par intuition 10 millions de fois plus rapidement que vous et moi, eh bien, le mauvais ange qu'est le démon peut savoir où est la fissure, comment travailler sur cette fissure, comment pénétrer dans cette fissure, et mettre la pagaille dans notre âme. Et lorsqu'il y a la pagaille dans notre âme, c'est ce qu'on appelle le péché. Le péché, c'est une pagaille morale dans notre âme. On coupe en quelque sorte l'union à Dieu, et donc on devient indépendant, devenant indépendant de Dieu, on devient dépendant de l'homme, on devient dépendant de ses passions, et à ce moment-là, on tombe dans l'esclavage le plus complet. Donc, contrairement à ce que tous les gens croient, quelqu'un qui est justement maître de ses passions en se protégeant par exemple par un vœu, eh bien, trouve la véritable liberté. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un vœu? Donc, Saint Thomas d'Aquin va expliquer ces choses-là. Vous avez, pardon, vous avez sur les polycopiés en page 103, en bas de la page, et surtout en page 104. Donc, les résumés de tout ce que je vais vous dire aujourd'hui à partir des textes de saint Thomas d'Aquin. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un vœu? Un vœu, c'est une promesse faite à Dieu d'un bien possible et meilleur. Donc, il est évident qu'on ne peut pas faire un vœu valide sur le plan moral de quelque chose de mauvais. Bon, exemple, le vœu de Hérode, quand il a vu la fille de sa concubine danser et qu'il a fait le vœu de lui donner n'importe quoi, quelle que soit la chose qu'elle allait lui demander, il s'est engagé à la fournir. Et la fille a demandé, sous l'impulsion de sa mère, sous l'influence de sa mère, la tête de Saint Jean-Baptiste. Et donc, lorsque la jeune fille est revenue devant tous les invités, devant Hérode, elle a exigé la tête de Saint Jean-Baptiste sur un plateau. Il est évident qu'un vœu de ce genre, le vœu de tuer quelqu'un, c'était le cas cet exemple précis, bien ce vœu est absolument nul sur le plan moral. Bon. Donc on ne peut faire un vœu qu'une chose qui est bonne, moralement parlant, donc ce qu'on appelle un bien possible et meilleur. On ne peut pas faire vœu de faire quelque chose d'impossible, ou ne pas faire le vœu d'aller décrocher la lune, c'est impossible. On ne peut pas faire un vœu non plus sur quelque chose de mauvais. Donc il faut que ça soit un vœu, une promesse faite à Dieu d'un bien possible et meilleur. Et ce n'est pas une simple promesse superficielle. On s'engage. Par un vœu, on s'engage fermement devant Dieu de faire une chose qui est possible et meilleure sur le plan surnaturel, de le faire avec l'intention de s'obliger sous peine de péché. C'est ça le vœu. Donc, voyons un petit peu ce que dit saint Thomas d'Aquin. Donc, vous avez un résumé de tout cela en bas de la page 103 sur le polycopier. Il y a, dit saint Thomas, deux sortes de sacrifices. Le premier, le principal, est le sacrifice intérieur, à quoi nous sommes tous tenus, car tout le monde est tenu d'offrir à Dieu une âme dévote. On a déjà vu tout ça. L'autre est le sacrifice extérieur. Donc, par le vœu, on va s'obliger, si vous voulez, à faire quelque chose qui est possible, qui est meilleur, pour la plus grande gloire de Dieu. Et donc, par le vœu, on va donner ou ce qu'on a, ou encore mieux, ce qu'on est, EST. Il est beaucoup plus difficile de donner ce qu'on est, c'est-à-dire sa volonté propre, c'est ce qui est le plus difficile à donner. Il est beaucoup plus difficile de donner ce qu'on est que ce qu'on a. C'est pour ça que le plus beau des vœux, si vous voulez, de ce côté-là, c'est le vœu d'obéissance, qui est bien plus difficile que de donner le vœu de chasteté ou le vœu de pauvreté. Par le vœu d'obéissance, on donne sa volonté propre. Je m'engage à donner ma volonté propre à mon supérieur légitime, protégé bien sûr par les constitutions de l'ordre dans lequel je rentre. C'est pour ça que strictement parlant, un vœu d'obéissance se fait uniquement dans la vie religieuse. Donc protégé par les constitutions de l'ordre dans lequel je veux rentrer, je me donne librement à la volonté de mon supérieur pour que mon supérieur m'aide à aller au ciel plus vite. C'est le but du vœu. Alors, la phrase importante, elle est juste après. Donc saint Thomas explique: tout pontife pris parmi les hommes est établi pour intervenir en leur faveur dans la relation avec Dieu afin d'offrir dons et sacrifices pour le péché. Ça, c'est l'épître de saint Paul aux Hébreux. De même que de ne pouvoir pécher ne diminue pas la liberté, de même la nécessité qu'éprouve la volonté fixée dans le bien ne diminue pas la liberté, comme on peut le voir en Dieu et chez les bienheureux. Alors, cette phrase est extrêmement importante. C'est la clé pour comprendre ce qu'est un vœu. Ne pouvoir pécher, dit saint Thomas, ne diminue pas la liberté. On a l'impression que je vais être libre si je peux pécher et offenser Dieu. En fait, c'est le contraire. Si j'ai, entre parenthèses, la licence, ou la liberté, la fausse liberté, j'appellerais ça la licence, si j'ai la licence d'offenser bon Dieu, je ne suis plus libre. Parce qu'à ce moment-là, ayant la licence d'offenser le bon Dieu, j'ai la possibilité de me jeter dans les pattes du démon qui va me manger tout cru. Donc au contraire, une fois que je me suis protégé pour m'empêcher de pécher en utilisant des moyens légitimes, S'empêcher de pécher, ne pas commettre le péché, c'est quelque chose de possible et de meilleur. Donc dans ce cas-là, je vais trouver ma propre liberté, ma liberté complète. C'est pour cela qu'on peut dire que les personnes les plus libres du monde sont les personnes qui, protégées par les vœux de pauvreté, chasteté et obéissance, qu'on appelle les trois conseils évangéliques, donc pauvreté, chasteté, obéissance, pauvreté pour lutter contre la concupiscence des yeux, chasteté pour lutter contre la concupiscence de la chair et obéissance pour lutter contre l'orgueil, bien quelqu'un qui est sous les trois vœux de pauvreté, chasteté et d'obéissance a la pleine liberté. Voyez, et imaginez les anges au ciel. Est-ce que les anges au ciel sont libres? Oui, ils ont une suprême liberté dans ce sens-là. Est-ce qu'il est possible pour un ange au ciel de pécher, d'offenser Dieu? Bien sûr que non. Alors, les gens du monde vont me dire, mais monsieur l'abbé, les anges au ciel, donc, sont esclaves puisqu'ils ne sont plus libres de pécher. Mais est-ce que c'est une chose bonne pour un ange du ciel de pouvoir pécher et de perdre le ciel? C'est comme les âmes des élus qui sont déjà au ciel. Ils ne peuvent plus pécher. Deo gratias, heureusement qu'ils ne peuvent plus pécher. Vous vous rendez compte le drame que ce serait d'être au ciel, en la présence de Dieu, et d'avoir encore la liberté de pouvoir offenser le bon Dieu. Ce serait épouvantable. Donc cette liberté, nous ne l'avons pas au ciel, justement parce que nous avons au ciel la parfaite liberté. Donc dans le sens moderne, il n'y a plus de liberté au ciel. La liberté n'étant, encore une fois, non pas le droit de faire ce que je veux, parce que ça, c'est pas la liberté, c'est la licence, mais le droit de choisir le meilleur moyen pour atteindre la fin par laquelle je peux sauver mon âme, la fin qui m'est imposée. Et ça, c'est très important à comprendre. On a beaucoup de mal à expliquer ça, surtout aux jeunes, parce qu'ils sont imprégnés par l'idée de liberté. Et on retrouve là les grands principes de la révolution, liberté, égalité, fraternité. Comment est-ce que le démon perd les âmes, surtout aujourd'hui? Le démon perd les âmes par les trois promesses maçonniques, liberté, égalité, fraternité. Liberté, fausse liberté, je peux faire ce que je veux, ça c'est la licence. Pouvant faire ce qu'on veut, à ce moment-là, on devient esclave de ses passions. Égalité, ça veut dire qu'on refuse tout supérieur au-dessus de nous. Et fraternité, ça veut dire qu'il n'y a plus de différence entre nous. Et ces trois fausses libertés, donc de liberté, de égalité, liberté et fraternité, les trois faux principes de la révolution, en fait, font des hommes modernes des esclaves. L'homme moderne est devenu un esclave par les trois promesses républicaines et maçonniques de pauvreté, liberté, égalité, fraternité. C'est inscrit sur les frontons de toutes nos mairies. C'est inscrit sur nos pièces de monnaie, malheureusement. Ces choses-là n'existaient pas avant la Révolution, parce qu'avant la Révolution de 1789, les catholiques avaient encore un peu de bon sens. Les Français avaient encore un peu de bon sens. Les gens avaient encore un peu de bon sens. Depuis, le bon sens s'est perdu et les gens veulent être libres. Je fais ce que je veux, je suis indépendant, je n'ai pas besoin de supérieur, et on est tous égaux, donc il n'y a pas de différence entre nous. Liberté, égalité, fraternité. C'est le raccourci pour l'enfer. Donc, celui qui ne peut pas pécher, qui volontairement se protège pour ne plus pouvoir pécher, non seulement ne diminue pas sa liberté, mais l'augmente. D'où cette phrase de saint Thomas, « Ne pouvoir pécher ne diminue pas la liberté, mais en fait l'augmente. » De même, dit-il, « La nécessité qu'éprouve la volonté fixée dans le bien ne diminue pas la liberté. » Pourquoi? Parce que tout simplement, à partir du moment où librement, je dis bien librement, je me mets sous un vœu de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, surtout d'obéissance, eh bien, librement, je me protège pour ne plus tomber dans les pattes du démon. Il est évident que la liberté existe pour quelqu'un qui fait un vœu. Quand quelqu'un fait un vœu, par exemple, de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, ou d'obéissance, un religieux par exemple, eh bien, il ne va pas le faire tout de suite dès qu'il rentre dans le couvent. Il va d'abord avoir un postulat, puis un noviciat, et puis au bout du noviciat, il va pouvoir faire des vœux de ce genre, mais simplement pour une période courte, en général de 3 ans, parfois d'un an, selon les constitutions, selon les ordres religieux. Et puis après avoir répété plusieurs fois son oblation pour 1 an, 2 ans, 3 ans, et bien à ce moment-là, il va pouvoir faire ce qu'on appelle une profession définitive et se protéger définitivement par les trois vœux de pauvreté, chasteté et d'obéissance, des attaques du démon. Alors à ce moment-là, il trouve sa complète liberté. Telle est, dit saint Thomas, l'obligation du vœu qui a quelques similitudes avec la confirmation des bienheureux dans le bien. Et saint Thomas cite saint Augustin, c'est une heureuse nécessité, celle qui nous pousse à mieux agir. C'est une heureuse nécessité qui nous pousse à être bons. C'est une heureuse nécessité qui va pousser un alcoolique à arrêter de boire. C'est une heureuse nécessité qui va pousser un voleur à arrêter de voler. C'est une heureuse nécessité qui va pousser un menteur à arrêter de mentir. Et pour tous, c'est comme ça. C'est une heureuse nécessité pour quelqu'un qui vit dans les vices de l'impureté, de ne plus pouvoir pécher par l'impureté contre la vertu de chasteté, justement parce qu'il se protège en connaissant sa propre faiblesse. Est-ce que c'est mal pour quelqu'un qui se sait en danger, qui se sait faible, de se faire protéger par des gens qui sont plus forts que lui? C'est parfaitement logique. Le petit enfant qui est à côté de sa maman, il voit qu'il y a un danger, il ne comprend pas très bien où est le danger, il a peur de faire des bêtises, il prend la main de sa maman, la maman le protège. C'est exactement ce que nous faisons par le vœu. Donc le vœu, je répète cette citation de saint Augustin, c'est une heureuse nécessité, celle qui nous pousse à mieux agir. Ne regrettez donc pas vos vœux, dit saint Thomas. Bien au contraire, réjouissez-vous qu'il ne vous soit plus permis de faire ce dont la licence vous est dommageable. Réjouissez-vous parce qu'il ne vous est plus permis, il ne vous est plus possible de perdre Dieu. Réjouissez-vous parce que vous êtes sur le chemin qui va au paradis, qu'avec la grâce du bon Dieu, vous avez toutes les chances d'y arriver. Au contraire, si la fausse liberté du monde vous permet constamment de quitter le chemin qui mène au salut et de prendre le chemin qui va en sens contraire et qui vous précipite en enfer, c'est pas de la liberté, ça. Et on a du mal à comprendre ces choses-là parce qu'on est complètement, à cause de l'osmose littéralement qui existe avec la révolution, on est complètement imprégné des faux principes. Monseigneur Lefebvre nous le disait souvent au séminaire. Quand au début du séminaire, je me rappelle, il nous l'avait expliqué souvent, je vous ai souvent dit ces choses-là, je répète parce qu'il faut toujours répéter les choses pour que ça rentre. Mais nous sommes imprégnés de libéralisme parce que ce libéralisme, disait Monseigneur, nous l'avons sucé avec le lait de notre mère. Ayant sucé ce libéralisme et tenu par le lait de notre mère, évidemment, il est partout, ce libéralisme. Et ce libéralisme entraîne une fausse idée de la liberté. À cause du libéralisme, le libéralisme, c'est quoi? C'est le faux principe par lequel je donne les mêmes droits aux vrais et aux faux. Je suis libre d'offenser Dieu ou de ne pas offenser Dieu. Non, monsieur, vous n'êtes pas libre. Non, madame, vous n'êtes pas libre d'offenser Dieu ou non. Votre liberté, c'est quoi? Vous êtes tenu de sauver votre âme. Vous êtes tenu sous peine de péché de sauver votre âme. Et donc, puisque vous êtes tenu de sauver votre âme, votre liberté s'arrête au simple fait que vous avez le droit de choisir le meilleur moyen pour sauver votre âme. Et le droit de péché, ce droit de péché dont on nous rabat les oreilles à longueur de journée, ce droit de péché, c'est un faux droit. Ce n'est pas un droit, c'est une licence. Donne un exemple tout simple. On entend cet exemple constamment dans le monde moderne. Les gens qui nous disent « La femme est maître de son cœur, son corps, donc elle peut avorter. » Donc elle peut avorter. L'interruption volontaire de grossesse, comme on dit, est le droit des femmes. Non, mais attendez, qu'est-ce que vous faites du droit de Dieu? Attention, il faut avoir le courage d'aller de remonter au vrai principe. Souvent, on entend des gens qui nous disent « Monsieur l'abbé, moi je suis contre l'avortement parce que vous comprenez, ça va contre le droit de l'enfant. » C'est vrai que ça va contre le droit de l'enfant. Mais avant d'aller contre le droit de l'enfant, il faudrait peut-être avoir le courage d'expliquer aux gens que l'avortement va contre le droit de Dieu. Puisque Dieu a dit « tu ne tueras pas ». Par l'avortement, ce n'est pas un bout de cheveux ou un bout d'ongle qu'on évacue du corps de la maman. Par l'avortement, c'est un être qui est déjà parfaitement vivant, tout petit, mais qui est parfaitement vivant, qui a une âme, qui a déjà tout ce qu'il faut dans son âme et dans son corps pour devenir un être adulte un jour avec la grâce du bon Dieu. Donc il faut faire attention à ces choses-là. Donc les gens modernes vont vous dire, la femme est libre de disposer de son corps. Non! On n'est pas libre de disposer de notre corps, de faire ce qu'on veut dans la vie. Pourquoi? Parce qu'un jour, on sera jugé par Dieu. Parce que Dieu est venu et Dieu nous a donné une loi, ce qu'on appelle la loi naturelle, qui est inscrite dans nos âmes, même pour ceux qui n'ont pas la foi catholique. Si Dieu n'existait pas, oui, Si Dieu n'existait pas, si Dieu n'était pas venu sur la terre il y a 2000 ans, en s'incarnant, en unissant la divinité, la deuxième personne, la Sainte Trinité, avec l'humanité de l'homme qui nous a été donnée par la très sainte Vierge Marie, alors oui, nous serions libres. Mais Dieu est venu. Et Dieu nous a imposé une loi. Et il nous l'a dit expressément, celui qui est baptisé, qui croira qu'il sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Vous voyez, ça c'est quelque chose de très très important. Et d'où vient la difficulté qu'ont beaucoup de nos fidèles à comprendre ces choses-là? Cela vient encore une fois de l'orgueil de la révolution. L'orgueil de la révolution. La plupart des gens, ce petit démon, on a tous, on peut dire, ce petit démon dans notre âme, bien caché quelque part, dans les replis de notre âme. Un petit démon qui va nous dire « Je suis indépendant. Étant indépendant, je n'obéirai à personne. » Quelqu'un qui a dit ça au début, qui est la première personne qui a dit « Je suis indépendant, je suis libre et je ne vais obéir à personne, surtout pas à Dieu. » Parce que je veux venir Dieu à la place de Dieu. Cette personne qui a fait ça, c'est un ange. Il s'appelle Lucifer. Lucifer a utilisé sa liberté pour offenser le bon Dieu. Regardez ce qui lui est arrivé. Regardez les conséquences. Il est dans l'enfer pour toute l'éternité. Aussi longtemps que Dieu est Dieu, Lucifer est en enfer. Alors, il nous faut bien comprendre ces choses-là. Je m'excuse d'insister un peu sur ce point, mais il me semble très important. Alors, voyons maintenant ce que dit saint Thomas d'Aquin. Par d'autres textes, article 1, le vœu consiste-t-il dans le seul propos de la volonté? Voilà ce que répond saint Thomas. Le vœu ne consiste donc pas uniquement dans le propos de la volonté, parce qu'il implique l'obligation de faire ou de ne pas faire une chose. Donc, la délibération de la raison, le propos de la volonté et la promesse, voilà le vœu dans sa nature complète. Donc, c'est bien la promesse faite à Dieu d'un bien possible et meilleur. La nécessité donc qui confirme la volonté dans le bien n'affaiblit pas la liberté humaine. J'ai déjà expliqué ça, c'est capital à comprendre. Si au moins vous avez compris ça aujourd'hui, ceux qui m'écoutent sur internet, eh bien j'ai pas perdu mon temps. La nécessité qui confirme la volonté dans le bien n'affaiblit pas la liberté humaine. Si vous êtes obligé d'aller au ciel, tant mieux, Deo gratias. Si nous sommes obligés d'être bons et de ne pas offenser Dieu, tant mieux, Deo gratias. Bien sûr, l'idéal, c'est d'aller au ciel par pur amour du bon Dieu. Si vous êtes capable de le faire, faites-le. Mais comme le bon Dieu sait que nous sommes faibles, sait qu'on ait les conséquences du péché originel pour nous, eh bien le bon Dieu nous dit, voilà, tu ne veux pas aller, mon petit, au ciel par amour, je vais t'obliger à aller au ciel par crainte. Et c'est pour ça qu'il nous donne la peur de l'enfer. Et bien sûr, ce qu'on cherche, ce qu'on vise, c'est d'aller au ciel par pur amour du bon Dieu. Mais au début, il faut parfois passer par ce qu'on appelle la contrition imparfaite, regretter son péché par peur de l'enfer, avant d'obtenir, Dieu aidant, la contrition parfaite, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Donc la nécessité qui confirme la volonté dans le bien n'affaiblit pas la liberté humaine. Dieu et les bienheureux sont libres, malgré l'impossibilité de pécher, j'ai déjà expliqué ça. L'obligation imposée par les vœux a un certain rapport avec la confirmation des bienheureux dans le bien. C'est une heureuse nécessité, encore une fois, saint Augustin, que celle qui nous force de faire ce qu'il y a de meilleur. Ne vous repentez pas de vos vœux, dit saint Augustin, je répète cette phrase qui est capitale, réjouissez-vous bien plutôt de n'avoir plus la liberté de faire ce que vous n'auriez pas fait qu'à votre désavantage. Et donc le vœu protège, nous maintient sur le bon chemin. Article 2 de la question 88 de la Seconda Secundae. Le vœu doit-il avoir pour objet un meilleur bien? Donc, on peut, évidemment, si la réponse est évidente, on ne peut s'engager par vœu qu'à des actes de vertu. Rappelez-vous la définition, promesse faite à Dieu d'un bien possible et meilleur. Donc, on ne peut pas s'engager à faire quelque chose de mauvais. Les vœux ont donc pour objet, dit saint Thomas, un bien meilleur par comparaison avec le bien nécessaire au salut. Donc si on fait un vœu de faire quelque chose de mauvais sur le plan moral, ce vœu est nul et on n'a pas le droit, bien sûr, d'accomplir l'objet de notre vœu. Donc, tout est dans l'esprit dans lequel on fait le vœu. Les macérations de la chair, les veilles, les jeûnes ne sont agréables à Dieu qu'autant qu'on les pratique avec prudence et discrétion pour mettre un frein à la concupiscence. Dans ces conditions seulement, ces austérités de la mortification sont l'objet d'un vœu. Si je fais un vœu par orgueil, parce que je me crois plus doué que les autres, plus aimé de Dieu que les autres, eh bien, ce vœu ne me sert à rien. Donc la soumission que nous offrons à Dieu par le vœu doit être raisonnable. Donc les vœux qui ont pour objet des choses vaines et inutiles doivent être méprisés plutôt qu'observés, parce que ce n'est pas un vœu, une promesse faite d'une chose, d'un bien possible et meilleur, et donc dans ce cas-là, le vœu est nul et ne doit pas être suivi, bien entendu. Article 3. Tout vœu oblige-t-il ? Voilà ce que répond saint Thomas. Il cite l'Écriture sainte, « Tout ce que vous avez promis par vœu, accomplissez-le. Il vaut beaucoup mieux ne pas s'engager que ne point accomplir sa promesse après un vœu » dans le livre de l'Ecclésiastique. Nous devons donc à Dieu, qui a sur nous un souverain domaine et qui nous comble de bienfaits, une fidélité toute particulière de laquelle résulte une obligation très étroite pour nous d'accomplir les vœux que nous lui faisons. Je serais donc tombé dans une sorte d'infidélité que de les violer. Donc, lorsqu'on s'oblige par vœu, on s'oblige par vœu par la vertu de religion. Donc, si je commets un péché contre mon vœu, imaginez quelqu'un qui a fait un vœu de pauvreté ou un vœu de chasteté et qui manque à son vœu, eh bien, il va faire un double péché mortel. Parce qu'il va d'abord commettre un péché, par exemple, d'impureté, premier péché mortel contre le sixième ou le neuvième commandement, plus un péché contre la vertu de religion, donc un péché contre le premier commandement. Donc même dans le cas où l'accomplissement d'un vœu devient impossible pour une cause quelconque, on doit conserver la volonté de réaliser sa promesse dès qu'on le pourra. Parfois des situations qui changent et qui sont indépendantes de votre volonté qui vous empêchent de remplir un vœu. Bon, vous avez fait le vœu de donner 1000 euros à des pauvres en réparation des vols que vous avez fait dans le passé, par exemple. Donc j'ai fait vœu de donner 1000 euros aux pauvres pour réparer mes péchés passés. Très bien. Et puis, vous savez que vous avez 1000 euros d'économie dans un tiroir d'une table de la maison, donc vous êtes vraiment décidé à donner cet argent aux pauvres. Vous ouvrez le tiroir et vous rendez compte que vous avez été volé et que vous n'avez plus d'argent dans le tiroir. Vous vous trouvez dans un cas d'impossibilité de faire votre vœu. Mais vous devez garder la volonté de réaliser votre promesse dès que ce sera possible. Article 4 de la question 88. Est-il utile de faire des vœux ? Donc on a déjà un petit peu répondu à cette question. De faire un vœu, quelque chose de plus parfait. Dieu est un créancier bienveillant qui, sans profiter de ce qu'il reçoit, enrichit ceux qui lui donnent. Donc les vœux que nous lui faisons, que nous faisons à Dieu, sont utiles. Pourquoi ? Parce qu'ils fixent irrévocablement notre volonté dans un bien qui nous est avantageux. Je fais le vœu de retrouver une bonne santé spirituelle. Je suis dans le péché jusqu'au cou, je suis malheureux comme une pierre parce que je suis le démon à longueur de journée. Maintenant, par mon vœu, je me protège pour rester dans le bien et être heureux avec notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ? Au contraire, c'est une bonne chose. Donc rappelez-vous que Dieu et les bienheureux sont libres malgré l'impossibilité de pécher. Dieu ne peut pas pécher, la Sainte Vierge ne peut pas pécher, les anges du ciel ne peuvent pas pécher, les élus dans le ciel ne peuvent pas pécher. Pourtant, ils sont souverainement libres. C'est une heureuse nécessité donc pour nous de faire ce qu'il y a de meilleur. Article 5. Le vœu est-il un acte de la vertu de religion ? La réponse est positive. Il est évident que l'on rapporte au service de Dieu ce que l'on voue. Donc le vœu est un acte de la vertu de religion. Alors, prenez à la page 104 pour ceux qui suivent, qui ont le polycopier devant eux, avec l'article 6, qui est un des plus importants de cette question numéro 88. Est-il plus méritoire et plus louable de faire une action par vœu que de la faire sans vœu ? Bon, est-ce que c'est plus parfait de faire un vœu que de ne pas en faire ? Donc c'est l'article 6 de question 88. Voilà le titre de la question. Est-il plus méritoire et plus louable de faire une action par vœu que de la faire sans vœu? Donc saint Thomas va expliquer qu'il est plus méritoire et plus louable de faire une action par vœu pour trois raisons. Bon. D'abord, parce qu'elle devient un acte de la vertu de religion. Donc, c'est un acte d'honneur à Dieu. Un acte rend davantage gloire à Dieu par un vœu que sans vœu. Deuxièmement, donc celui qui fait le vœu et l'action avouée témoigne à Dieu plus de soumission. Il soumet à Dieu non seulement l'action, mais sa volonté. Il ne donne pas simplement ce qu'il a, mais aussi ce qu'il est. Et enfin, troisièmement, le vœu fixe la volonté de l'homme dans le bien d'une manière irrévocable. Donc, si celui qui agit sans vœu remplit un conseil, celui qui agit avec vœu en remplit deux. Le conseil qui recommande de l'acte et le conseil qui recommande le vœu. Donc, de même qu'un péché contre le vœu est un double péché, un péché contre la vertu qui est violée par le péché en question, mais aussi un péché contre la vertu de religion. De la même façon, lorsqu'on fait une action même bénigne, même pas très importante, mais protégée par un vœu, on fait un acte de la vertu de religion, donc on se sanctifie. Je vais faire telle action. Bon, par exemple, prenez un exemple tout simple. Je vais laver la vaisselle. Voilà. Pour une décision d'aller laver la vaisselle. Bon. Je prends ma propre décision d'aller laver la vaisselle. Je remplis mon devoir d'État, point final. Bon. Je suis sous-supérieur. J'ai un supérieur au-dessus de moi. Je suis moine, par exemple. Mon supérieur me dit, allez laver la vaisselle. À ce moment-là, en allant faire quelque chose d'aussi simple, d'aussi trivial que de laver la vaisselle, je remplis la vertu de religion. Je fais un acte de la vertu de religion parce que je le fais par amour pour le bon Dieu à cause de mon vœu. Donc, il est évident que laver la vaisselle par obéissance à un vœu de religion est quelque chose de plus parfait que de laver la vaisselle simplement pour remplir notre devoir d'État. Parce qu'il y a quelque chose en plus qui nous est accordé par le fait que nous lavons la vaisselle pour obéir à notre supérieur. Alors, vous avez tout cela expliqué, résumé en page 104 sur les polycopiés. Je vous répète un petit peu, je vais relire ces textes. Je m'excuse de relire plusieurs fois les textes, parfois sous des formes un peu différentes. Saint Thomas, d'ailleurs, le fait très bien lui-même. Il reprend, on voit très bien que Saint Thomas répète les mêmes choses. C'est un petit peu ce qu'on peut appeler l'effet de tuile, si vous voulez. La tuile recouvre un peu celle qui est en dessous d'elle, laquelle recouvre celle qui est en dessous d'elle, pour qu'il n'y ait pas de possibilité pour l'eau qui tombe sur les tuiles de s'infiltrer sous le toit. Bien, c'est un peu la même chose avec Saint Thomas. Alors, chaque article, si vous voulez, chaque article d'une question, donc il explique un peu plus le sujet de la question. Et donc, au début de chaque article, il va reprendre ce qui a été défini à l'article précédent. Article 2, il reprend ce qui a été repris, qui a expliqué déjà à l'article 1, il en rajoute un peu pour aller un peu plus loin. Article 3, il va reprendre ce qui a été expliqué à l'article 2 pour aller un peu plus loin qu'article 3. Article 4, il va reprendre ce qui a été expliqué en article 3 pour aller plus loin, etc. C'est pour cela qu'il faut répéter tout le temps les mêmes choses. Souvent, c'est un reproche que j'ai souvent entendu, les mêmes syllabes, vous répétez toujours les mêmes choses. Ben, vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ a aussi répété toujours les mêmes choses, hein. Saint Jean, on lui reprochait aussi la même chose. On lui disait, vous arrêtez pas de dire qu'il faut que pour sauver son âme, il faut obéir à Dieu. Bon, qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur et le prochain comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. Et c'est le premier commandement. Et les disciples de Saint Jean disaient, mais pourquoi vous répétez toujours la même chose? Et Saint Jean répondit, parce que c'est ce que le bon Dieu veut, c'est ce que le bon Dieu nous a enseigné, qu'il y a tout dans ce premier commandement. Donc la même œuvre accomplie en exécution d'un vœu, page 104 en haut de la page, est plus méritoire et meilleure que si on l'eût faite sans vœu. Et pour cela, pour trois raisons. Je répète les trois raisons qu'il faut bien se mettre dans la tête. D'abord, premièrement, l'acte d'une vertu inférieure devient meilleur et plus méritoire du fait qu'il est commandé par une vertu supérieure. C'est un acte donc de la vertu de religion. Pourquoi ? Parce que par ce commandement, il en devient l'acte. Nous reconnaissons, par exemple, plus de bonté et de mérite à l'acte de foi ou d'espérance lorsqu'ils sont commandés par la charité. C'est pourquoi les actes de vertu morale autres que la religion, le jeûne, acte de l'abstinence, la continence, acte de la chasteté, sont meilleurs et plus méritoires s'ils sont accomplis en exécution d'un vœu, car ainsi, ils appartiennent au culte de Dieu comme des sacrifices. Citation de saint Augustin, « La virginité elle-même n'est pas honorée pour ce qu'elle est, mais pour l'hommage qu'on en fait à Dieu, elle qui favorise et conserve la continence religieuse. » Donc, il est plus parfait de faire une chose bonne, un bien possible et meilleur, sous vœu que sans vœu. Donc, on donne plus d'honneur à Dieu en faisant quelque chose par vœu que faire la même chose sans vœu. On prouve plus à Dieu qu'on l'aime en faisant quelque chose par vœu qu'en faisant la même chose sans vœu. Deuxièmement, celui qui accomplit une chose après en avoir fait le vœu se soumet plus entièrement à Dieu que celui qui se contente de l'accomplir. Donc il y a un acte de confiance supplémentaire. Là, une belle phrase, je crois qu'elle est de saint Grégoire. « Qui donne l'arbre avec les fruits fait un présent plus grand que s'il donnait seulement les fruits. » On peut donner que les fruits de l'arbre. Et si vous donnez l'arbre avec, c'est encore plus grand. Et si vous donnez le terrain encore sur lequel est l'arbre, c'est encore plus grand. Bien, par un acte de la vertu de religion, je donne tout ce que j'ai. Je donne ma volonté. Mon Dieu, je vous donne ma volonté. Je sais que vous n'avez pas me demander de faire commettre un péché ou des choses ridicules. Donc, je vous fais parfaitement confiance parce que je vous aime et que je sais que vous êtes Dieu. Et qu'étant Dieu, vous ne pouvez ni vous tromper ni me tromper. Donc, je me donne complètement à vous. Acte de la vertu de religion. Donc, qui donne l'arbre avec les fruits fait un présent plus grand que s'il donnait là seulement les fruits. Donc, qui donne avec vœu fait un présent plus grand à Dieu que s'il donnait la même chose sans vœu. Le vœu confirme de façon stable, troisièmement, notre volonté de bien faire. Agir avec une volonté ainsi stabilisée dans le bien, c'est faire un acte de vertu parfaite. Bon. Alors, attention, hein, ce que je dis correspond à la doctrine de l'Église, cependant, il faut aussi agir avec prudence. C'est pour ça qu'on ne fait pas un vœu sous n'importe quelle condition. Il y a des gens qui font des vœux pour n'importe quoi. Ils sont toujours en train de faire des vœux. Moi, j'ai rencontré cela souvent, surtout c'est les femmes qui sont pleines de bonne volonté, font des vœux toutes les 5 minutes. Certaines qui font des vœux toutes les 5 minutes. J'ai été obligé de demander à certaines personnes qui avaient cette tendance de faire des vœux constamment, de ne s'engager à ne jamais en faire sans l'autorisation de leur supérieur. Et donc finalement, je lui faisais faire un vœu en disant, voilà, je promets devant Dieu que tous mes vœux seront invalides tant qu'ils n'ont pas été avalisé en quelque sorte par le supérieur, pas accepté et encouragé par mon confesseur. À ce moment-là, on est protégé. Et donc, on ne fait pas n'importe quoi avec des vœux. On ne fait pas un vœu sans réfléchir sérieusement. De même qu'on demande à un religieux de ne pas faire sa profession définitive, ses vœux de pauvreté, chasteté, obéissance pour toute la vie, pour toute l'éternité, en fait, avant plusieurs années de vie religieuse, de la même façon, on ne fait pas un vœu sur un coup de tête. Donc, l'obligation du vœu, c'est le page 104 au milieu de la page sur le polycopier, l'obligation du vœu chez ceux qui sont bien disposés, par le fait qu'il affermit leur volonté, ne cause pas de tristesse mais de la joie. Quand on fait un vœu avec une tête d'enterrement, ben le vœu ne veut pas dire plus grand-chose. Hein, parce qu'il faut, l'acceptation de la volonté, il faut que la volonté coopère au désir, justement, que nous avons de nous donner à Dieu. Si on dit, ah, bon Dieu, voilà mon Dieu, ben, je vous donne ce que j'ai, mais j'ai vraiment pas envie de le faire, je le fais par pure obligation, ce n'est pas grand-chose. Il y a un état d'esprit qu'il faut avoir, justement, pour faire le vœu dans les bonnes conditions, pour remplir son vœu dans les bonnes conditions. Donc, un vœu, quand il est bien fait, donne de la joie. Le signe par lequel je peux reconnaître en général que je suis en état de grâce et que je fais ce que le bon Dieu me demande, c'est justement, rappelez-vous, c'est dans les exercices saint-Ignace, la paix et la joie. La paix et la joie, la lumière et l'attraction vers le bien. Au contraire, les signes par lesquels on peut reconnaître qu'on fait en général une chose qui n'est pas bonne, qui n'est pas voulue par Dieu, eh bien c'est la tristesse, la confusion, l'obscurité de l'âme et l'attraction vers le mal. Si cependant donc l'œuvre considérée en elle-même devenait triste et contraignante, une fois le vœu prononcé, tant que subsiste la volonté d'accomplir le vœu, c'est encore plus méritoire que de l'accomplir sans vœu. Pourquoi? Si j'ai pas envie de faire une chose, mais que volontairement, je dis, voilà, mon supérieur me demande quelque chose qui me plaît pas, mais par amour pour le bon Dieu, je vais faire ce qui m'est demandé avec un grand sourire. Le bon Dieu ne veut pas être servi par des gens qui sont des gens qui le suivent avec une tête d'enterrement à longueur de journée. Si le bon Dieu, par notre vœu, nous maintient sur la voie qui mène au ciel, il faut le remercier et pas faire une tête de cochon parce qu'on est obligé de rester sur la voie qui mène au bien. Heureusement que je suis obligé d'une certaine façon à rester sur la voie qui mène au bien. Alors, les modernes vont vous dire, mais c'est un esprit de coaction, de coercition constante, pardon, c'est-à-dire un esprit d'obligation. Donc, vous élevez les enfants, vous élevez les âmes, nous disent certains mondains, vous élevez les âmes uniquement dans la crainte. Mais la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Voilà la réponse. Et encore une fois, il vaut mieux aller au ciel par crainte que de rater la porte du ciel et rester à la porte et tomber en enfer parce que justement, on n'a pas eu la crainte de Dieu. Je pense que s'il fallait définir l'Église de Vatican II, l'Église de Vatican II, c'est l'Église catholique qui a. C'est l'Église. Si vous voulez, catholique, moins la crainte du bon Dieu. Et comme la crainte est le début de la sagesse, l'Église du Vatican II, c'est l'Église catholique, moins le bon Dieu. Tout simplement, le bon Dieu a disparu. Et à la place du bon Dieu, qui mène l'Église catholique, qu'est-ce que l'Église du Vatican II a mis? L'Église catholique a placé l'homme à la place de Dieu. Donc, qui ont fait profession religieuse, donc les trois vœux de pauvreté, chasteté et d'obéissance, sont morts au monde et vivent pour Dieu. Donc, puisqu'un religieux est mort au monde et vit pour Dieu, on ne doit donc pas le faire revivre, revenir à la vie humaine, quoi qu'il arrive. Il y a une histoire que j'ai trouvée, je me demande si c'est pas dans Rodriguez, donc un moine qui est dans un monastère, et un jour il y a un hôte dans le monastère qui parle avec ce moine. Donc le monastère était assez grand, et le moine explique ce qu'est la vie religieuse au visiteur. Et puis le visiteur, dans un coin du monastère, tombe sur un tableau magnifique. Il s'extasie devant ce tableau. Ce tableau est une merveille. Est une merveille. Et il dit, mais qui a fait ça? Je voudrais pouvoir rencontrer, manifestement l'œuvre était relativement récente, je voudrais pouvoir rencontrer la personne qui a peint ce tableau. Et le moine a répondu, ce n'est pas possible, il est mort. Et en fait, c'est lui qui avait peint le tableau. Et donc il n'a pas menti en disant au visiteur, l'auteur de ce tableau est mort. Pourquoi? Parce que je suis devenu religieux, je n'ai plus rien à moi, je ne suis plus propriétaire de ce tableau. Donc je ne peux pas vous le vendre. Avançons avec l'article 7 de la question 88 sur le vœu, seconda secundae. Le vœu est-il rendu solennel par la réception d'un ordre sacré et par la profession religieuse? Là, j'ai un peu plus vite, ce sont des questions plus canoniques qu'autre chose. Donc, voilà ce que dit saint Thomas. Le vœu devient solennel lorsque le lévite se dévoue au divin ministère par la réception d'un ordre sacré, cas d'un séminariste par exemple, qui devient sous-diacre ou diacre ou prêtre, et lorsque le postulant embrasse l'état de perfection par la profession religieuse dans un ordre approuvé. Quand on est accepté comme avec un vœu solennel, par exemple les vœux solennels de pauvreté, chasteté et d'obéissance, on rentre dans un état de perfection. Donc, les vœux que l'on fait en public peuvent avoir une certaine solennité humaine sans réaliser les conditions de la solennité spirituelle et divine. Autres sont les vœux publics, autres sont les vœux solennels. C'est une question canonique. Donc, article 8, celui qui est sous la puissance d'un autre peut-il s'engager par vœu? L'homme, répond saint Thomas, soumis à quelqu'un n'a pas le pouvoir, dans la sphère de sa suggestion, de faire ce qu'il veut, dépend de son supérieur. Il ne peut, sans sa permission, s'engager par un vœu irrévocable. Si vous êtes sous la puissance d'un autre, par vœu, ben, vous êtes limité dans ce que vous pouvez faire. Bon, il est évident que le supérieur ne va pas demander constamment à celui qui est sous sa juridiction de lui demander des permissions pour tout, sinon on ne pourrait plus vivre. Bon, c'est pour ça qu'il y a des constitutions dans un ordre religieux, et lorsque je fais vœu d'obéissance dans un ordre religieux, je fais vœu d'obéissance d'après les constitutions. Bon, donc je fais vœu d'obéissance à Dieu qui me manifeste sa volonté par les constitutions qui vont m'obliger. Il est évident donc que si mon supérieur me demande, me donne un ordre qui va contre les constitutions, contre la loi naturelle, qui est un ordre qui est un péché par exemple, je n'ai pas le droit, sous peine de péché, d'obéir à mon supérieur. C'est pour ça que lorsque le supérieur ecclésiastique au début, le Monseigneur Lefebvre, lui ont demandé d'accepter la nouvelle messe, il n'y avait pas de désobéissance de dire non. Pourquoi? Parce que les supérieurs ecclésiastiques n'avaient pas le droit de changer la messe et de détruire la messe comme ils l'ont fait. Donc, bien expliquer ça. Le religieux, en acceptant les statuts de son ordre, soumet ses actes à l'autorité supérieure. Mais il est protégé par des constitutions. Souvent, les gens de l'extérieur ne comprennent pas ça. Vous faites vœu d'obéissance, mais c'est l'obéissance comme un cadavre, c'est l'obéissance jésuite, et c'est beaucoup trop dangereux parce que si le supérieur vous demande quelque chose de faire quelque chose de mal, c'est un péché. Non, parce qu'encore une fois, vous faites un vœu d'obéissance au supérieur pour le bon Dieu. En fait, faites vœu d'obéissance à Dieu. Ça, l'obéissance absolue, l'obéissance inconditionnelle, n'existe pas dans l'Église catholique. Même l'expression qui est en usage chez les jésuites, obéir comme un cadavre, ne veut pas dire qu'on obéit pour faire n'importe quoi. Obéissance comme un cadavre aux constitutions, obéissance comme un tel cadavre à l'ordre du supérieur qui me manifeste la volonté du bon Dieu. Il est évident que si le supérieur demande quelque chose qui va contre les constitutions, eh bien, il ne peut pas donner d'ordre. L'ordre est nul. Je me rappelle au séminaire, je vous donne un exemple tout simple. En principe, dans la Fraternité Saint-Pélis, quand j'étais à la Fraternité Saint-Pélis, c'était comme ça. Monseigneur Lefebvre ne voulait pas que ses prêtres soient seuls. Bon. Donc, il essayait toujours, dans toute la mesure du possible, de ne jamais envoyer un prêtre seul. Et il est arrivé plusieurs fois, moi ça m'est arrivé plusieurs fois dans le cœur de la Fraternité, quand j'en étais membre, d'être envoyé par Monseigneur Lefebvre ou par le supérieur général, d'être envoyé dans un poste, je me retrouvais tout seul. Bon. Donc ça allait contre les constitutions de notre ordre, de la Fraternité sacerdotale Saint-Pélis. Et dans ce cas-là, le supérieur ne pouvait pas donner d'ordre. Il disait, voilà monsieur l'abbé, je souhaiterais que vous alliez à tel endroit. Je vous préviens malheureusement, pendant 6 mois où je comprends ces ordinations, vous serez seul, j'ai pas de prêtre à vous envoyer. Je ne peux pas vous envoyer de prêtre pour vous aider, donc vous serez tout seul. Est-ce que vous acceptez? Et là, on a le droit de dire non. Pourquoi? Parce que ça va contre les constitutions. Par contre, si le supérieur nous donne un ordre qui va dans le cadre des constitutions, on n'a pas le droit de dire non. Il faut obéir. Article 9. On arrive à la fin de cette question numéro 88. Donc passons à l'article 9 de la question 88. Les enfants peuvent-ils faire le vœu d'entrer en religion? Alors ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à comprendre aujourd'hui, encore une fois, à cause du libéralisme moderne. Bon. Donc voilà ce que répond saint Thomas. N'oublions pas que saint Thomas lui-même s'est retrouvé moine très jeune. Donc, la plupart des enfants de bonne famille, au temps de saint Thomas, au XIIIe siècle, il est mort en 1274, rappelez-vous. Au XIIIe siècle, il arrivait très fréquemment que des enfants de bonne famille soient confiés, par exemple, aux bénédictins, à l'ordre bénédictin, pour faire leurs études secondaires, leurs études primaires, même parfois à 7-8 ans, un enfant se retrouvait déjà dans un monastère bénédictin pour suivre l'équivalent de l'école primaire chez les bénédictins. Et il suivait une partie de la vie bénédictine, pas tous les offices, bien sûr, entre autres, il n'avait pas l'office de nuit, etc. Mais il suivait une partie des offices avec les moines. Et donc, saint Thomas d'Aquin lui-même avait été moine, si mes souvenirs sont exacts, je crois que c'était au Mont Cassin, en Italie. Il avait été placé par sa famille moine au début pour qu'il puisse avoir ses bases de vie intellectuelle et vie spirituelle. Donc, les parents, à ce moment-là, les parents catholiques avaient vraiment le sens de la responsabilité pour former l'âme de l'enfant et avec le corps de l'enfant. Pas simplement lui donner des bons principes sur le plan naturel, mais aussi des bons principes sur le plan surnaturel. Donc, avant l'âge de puberté, donc c'est en principe 12 ans pour les filles et 14 ans pour les garçons, donc le concile de Trente exige l'âge de 16 ans et une année de noviciat pour la profession religieuse. Attention. Donc, avant l'âge de puberté, l'enfant qui a l'usage de raison peut s'engager, même par un vœu simple, dit saint Thomas, mais jamais par vœu solennel. Et ses parents ont toujours le droit d'annuler les vœux simples qu'il fait. Ça, c'est le droit naturel. Après l'âge de puberté, il a le pouvoir de s'obliger par vœu simple ou par vœu solennel sans la permission de ses parents. C'est la très sainte Vierge Marie, si vous voulez, qui, avec l'autorisation de ses parents, sainte Anne et saint Joachim, se retrouve dès l'âge de 3 ou 4 ans déjà à servir dans le temple. Vous imaginez aujourd'hui ces choses qu'on a un mal fou à comprendre, une petite fille de 3 ans ou 4 ans qui dit à ses parents, ben voilà, moi je voudrais servir dans l'église, donc je rentre dans un monastère, vous serez des cris. Parce que justement, on a perdu justement cet amour pour le bon Dieu, malheureusement. Bon, je me suis dit, il est évident qu'aujourd'hui, ce serait imprudent, je pense, on ne pourrait pas faire cela, sur le plan légal même, de prendre déjà un enfant de 3 ou 4 ans dans la vie religieuse. Mais en soi, c'était la meilleure des choses. Imaginez, pouvoir suivre, faire sa formation, faire toutes ces. Toutes les selon la loi naturelle, l'enseignement naturel d'apprendre à compter, à lire et à penser droit dans un monastère catholique, c'est quelque chose de magnifique pour un petit garçon, une petite fille. Bien sûr, il est loin de ses parents, mais il a autre chose qui reçoit à la place. Donc je passe assez rapidement sur les derniers articles de cette question 88, parce que ce sont des choses plus canoniques, mais je répète rapidement, je résume rapidement l'enseignement de saint Thomas. Donc, peut-on, article 10 de la question 88, peut-on dispenser des vœux? Voilà ce que dit saint Thomas. Il peut arriver, par la force des circonstances, qu'une œuvre devienne ou mauvaise, ou inutile, ou contraire à un plus grand bien. Alors, elle n'est plus la matière légitime d'un vœu. Donc, il peut y avoir des changements qui font que vous devez changer la nature de votre vœu. De là, la nécessité de prononcer que le vœu qui la concerne ne doit pas être observé. Alors, ça peut être la dispense d'un supérieur qui a autorité pour cela, décider, si vous voulez, que dans ce cas-là, il n'est pas bon pour vous de garder votre vœu et donc je vous dispense du vœu. Il faut avoir évidemment le pouvoir sur la personne. Ou en changeant l'œuvre en place pour une autre meilleure. C'est ce qu'on appelle la commutation du vœu. Donc l'Église peut faire l'un et l'autre dans certaines conditions. Alors, article 11. Peut-on dispenser du vœu solennel de continence? Vœu solennel de chasteté, par exemple, le vœu solennel de chasteté du prêtre. Donc, lorsque la continence ne tient pas essentiellement à la solennité d'un vœu, article 11 de la question 88, par exemple dans les ordres sacrés auxquels elle est annexée par le décret d'Église, non par l'essence même des choses, le pape peut en dispenser. Bon, dans certains cas. Mais si elle est essentiellement liée à la solennité du vœu, comme dans la profession religieuse, il ne le peut pas. Donc, strictement parlant, un pape ne peut pas détruire un vœu solennel. Bon, il peut y avoir certains cas, couverts justement, précisés par le droit canonique de l'Église, mais en principe, un religieux qui est sous vœu solennel de chasteté ne peut pas se faire dispenser de son vœu. C'était pareil pour un prêtre. strictement parlant. Donc, lorsque l'Église était en ordre, la dispense du vœu de chasteté était jamais accordée, très difficilement accordée pour un sous-diacre, encore plus difficilement pour un diacre et jamais pour un prêtre. Article 12. L'autorité du supérieur ecclésiastique est-elle nécessaire pour la commutation, pour la dispense des vœux? Alors, il y a une controverse dans le livre que je suis, ici, la somme de saint Thomas d'Aquin, le résumé de la somme de saint Thomas d'Aquin par l'abbé Le Breton, donc en 1860, il a écrit en 1860 ce résumé. Alors attention, là on est avant le droit canonique de Saint-Pie X, qui a été préparé par lui et publié en 1917. C'est le droit canonique de l'Église catholique que nous suivons. Donc, quand il pose la question de savoir si l'autorité supérieure ecclésiastique est nécessaire pour la commutation à dispense des vœux, il est précisé en note que cette question est controversée. On admet assez généralement que le souverain pontife peut dispenser de tous les vœux, mais c'est controversé, comme je vous ai déjà expliqué. L'homme qui consacre sa vie tout entière au service de Dieu par le vœu de religion, par exemple, est dispensé de tous les vœux particuliers qu'il a fait dans le siècle. C'est que les prières, les jeûnes, les mortifications ne violent pas ces vœux parce que le particulier est renfermé dans l'universel. Je donne un exemple tout simple. Parfois, lorsque les gens viennent suivre les exercices Saint-Ignace, il y a beaucoup de choses à faire pendant les 5 jours des retraites de Saint-Ignace. Et donc, il y a un certain nombre de méditations à faire, d'exercices de piété à suivre en communauté avec tous les gens qui font la retraite, mené par le prédicateur. Parfois, les gens viennent avec certaines habitudes de prière. Et ils viennent me demander, « Monsieur l'abbé, il y a une prière, par exemple, du matin, une prière du soir pour tous les retraitants, mais moi, je suis habitué à faire une autre prière. Est-ce que je suis tenu de faire, en plus de la prière du matin de la retraite, une prière plus personnelle que j'avais avant ?» Non. Même des gens qui me disent, « Monsieur l'abbé, moi, je suis habitué à jeûner tous les jours. » Et pendant la retraite, est-ce que je suis obligé de manger avec tout le monde? Oui, vous suivez les règles de toute la retraite. Le vendredi, des retraites, c'est le jour de la passion, on jeûne, mais pas les autres jours, pour que les gens soient en forme, pour bien faire leur retraite. D'accord? Donc, il y a aussi une note importante du père Le Breton. Les supérieurs ecclésiastiques, dit-il, ne peuvent pas dispenser des vœux sans raison. Ils sont des économes et non des propriétaires. Donc, on peut résumer en disant que le souverain pontife, le vicaire de Jésus-Christ, a le pouvoir de dispenser de tous les vœux qui admettent la dispense. Mais attention, prenons un exemple tout simple. Les vœux de mariage, par exemple. Deux personnes catholiques, de baptiser, sont mariés religieusement. Pour un mariage qu'on appelle un mariage ratifié et consommé. Donc il y a une consommation du mariage, un sacrement de mariage que les deux époux se donnent devant le témoin officiel de l'Église. Bon, un mariage légitime, qu'on appelle ratifié et consommé. Est-ce que le souverain pontife, est-ce qu'un pape a le pouvoir de rompre ce lien? Réponse, non. Et l'Église enseigne qu'un mariage ratifié et consommé ne peut être annulé par aucune autorité au ciel et sur la terre. Dieu lui-même ne peut pas annuler un mariage ratifié et consommé entre deux catholiques. C'est impossible. Il faut que nos fidèles n'oublient pas ça. À une heure où l'Église du Vatican II prétend avoir le pouvoir d'annuler ces mariages. Dieu lui-même ne peut pas annuler un mariage catholique. C'est impossible. Il n'y a pas d'annulation de mariage, ça n'existe pas. Pour un mariage ratifié et consommé entre deux catholiques. Donc, les supérieurs ecclésiastiques, dit saint Thomas, et repris par le père Le Breton, sont des économes et non des propriétaires. Donc, le souverain pontife a le pouvoir de dispenser de tous les vœux qui admettent la dispense. Quand le vœu n'admet pas de dispense, le pape n'a aucun pouvoir pour les annuler. Ainsi, certains vœux sont ce qu'on appelle même réservé, par exemple, au pape. Par exemple, le vœu de continence perpétuelle, même avant, il y avait le vœu de pèlerinage en Terre Sainte, qui était réservé au pape. Seul le pape peut dispenser de ce vœu. Donc, pour résumer, certains vœux sont réservés, ne peuvent être détruits que par quelqu'un qui a l'autorité. Donc, faire attention avant de faire un vœu. Ne faites pas un vœu de façon imprudente, parce que J'ai le pouvoir de recevoir un vœu. J'ai aucun pouvoir en tant que prêtre, en tant que simple prêtre séculier, j'ai aucun pouvoir pour annuler le vœu. Bon. Donc, certains vœux peuvent être annulés par le pape, ou dans certains cas par un évêque, et certains vœux ne peuvent être annulés par personne, parce qu'ils ont été faits directement à Dieu, et qu'il n'y a pas de cause qui permette l'annulation de ce vœu. C'est le cas, par exemple, du sacrement de mariage. J'ai déjà expliqué. Voilà, donc on va arrêter là. Nous ferons, si Dieu veut, la prochaine fois, la question numéro 89 sur le serment. Donc, c'est une petite variation par rapport au vœu. Question 89. Donc, si Dieu veut, donc, nous aurons le prochain cours vendredi prochain. Nous terminons par une prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pilice, priez pour nous. Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.